vaste dans l'hiver. Que celle dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin.
Celui-ci n'est pas mal, c'est un Gaulois.
J'ai horreur des Gaulois, trop de poils. A-t-il la force de descendre ici tout seul?
Approche-toi, descends. Descends.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes, et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour un rendez-vous qui sera désormais, vous l'avez compris, reporté 10 minutes plus tard que précédemment, 10 minutes après 10 heures. Mais j'ajoute aussitôt, qu'une nouvelle diffusion, le dimanche, de 16h30 à 17h20, permettra une écoute ou une réécoute aux auditeurs qui auraient éprouvé de la douleur vraiment atroce de manquer Concordance des temps, en tout ou en partie, le samedi matin, ou qui n'en seraient pas rassasiés. Aujourd'hui, nous allons parler du racisme dans l'Antiquité gréco-romaine. Le racisme, cette tentation constante des esprits faibles et des âmes inquiètes, le racisme, cette inquiétude lancinante, les citoyens réfléchis, le racisme est-il le fruit vénéneux de la seule époque récente et des théories dites scientifiques du 19e et du 20e siècle? On le croit souvent, mais c'est évidemment à vérifier. On a longtemps considéré que les Grecs et les Romains n'avaient pas développé une pensée raciste organisée, comme si les propos qu'ils tenaient au sujet des autres peuples relevaient d'une sorte de banale discrimination, certes injustifiée, mais jamais érigée en système. Les préjugés auraient été culturels et patriotiques, mais jamais raciaux. Or, un livre tout neuf vient de paraître en anglais, dû à Benjamin Isaac, professeur à l'université de Tel Aviv, un livre publié par les presses de l'université de Princeton et intitulé « L'invention du racisme dans l'Antiquité classique ». Un livre qui défend la thèse exactement inverse et qui affirme que les anciens auraient déjà connu ce qu'on pourrait appeler un proto-racisme, au sens de proto-histoire, qui serait déjà un racisme conceptualisé, fondé sur une argumentation d'allure scientifique et qui se voulait démonstrative. J'ai donc convié Maurice Sartre, bien connu à ce micro, professeur à l'Université de Tours et membre de l'Institut universitaire de France, à venir en parler avec moi, non pas naturellement pour gémir sur la permanence d'un fléau, mais pour donner quelques armes, après tout, peut-être, au combat contre lui. Et pour lancer la conversation, je vais vous faire écouter un extrait d'une tribune de Paris du 17 mars 1952. 1952, où successivement Alfred Métraux, Michel Léris et Claude Lévi-Strauss s'opposent sur la notion même de racisme dans l'Antiquité.
Le racisme, non seulement a servi les politiques, les minorités ont été souvent des boucs émissaires, mais aussi le racisme a eu un aspect profitable. Il était tout de même confortable de pouvoir justifier l'exploitation de certains groupes en leur déniant les valeurs intellectuelles ou morales.
Ça n'est pas très exact si ce que vous venez de dire, Monsieur Métraux, si on le rapporte aux sociétés antiques, à la société de Sparte ou certaines sociétés du temps de Rome, les esclaves faisaient partie du patrimoine national, si j'ose dire. La question du nationalisme ne se posait pas à ce moment-là. C'était beaucoup plus la question de classe. Je vous pose la question.
Oui, mais tout de même, on ne peut pas parler d'un racisme dans l'Antiquité. Le racisme...
Alors, je crois bien que les esclaves dans l'Antiquité étaient considérés comme étant d'une race, essentiellement d'une race différente.
Ils étaient considérés comme des barbares.
Des barbares.
Oui, des gens moins cultivés.
Ah, d'une
mais
race
pas inférieurs physiquement. Biologiquement.
Vous pensez qu'ils étaient considérés comme de la même race que les citoyens?
Enfin, ils n'étaient pas considérés de la même race, ils n'étaient pas considérés comme des êtres humains, très exactement. C'était le racisme poussé jusqu'aux plus extrêmes limites où on refusait l'humanité à une catégorie particulière.
Et vous reconnaissez néanmoins qu'ils faisaient partie du patrimoine national, que ce fût du patrimoine national athénien, spartiate ou romain.
Oui, bien sûr, mais je crois que la question que nous discutons a une grande importance théorique, parce que même si nous supposons abolie les causes économiques qui sont à l'origine du racisme comme doctrine destinée à justifier l'exploitation des peuples de couleur. Est-ce que, tant qu'il y aura des races, on peut s'attendre à ce que des relations harmonieuses s'établissent entre ces races ? Ou bien est-ce qu'il ne faut pas détruire les races, c'est-à-dire favoriser leur mélange, comme étant le seul moyen de venir à bout du racisme ?
Maurice Sarre, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est l'historien devant trois ethnologues, s'exprimant il y a 52 ans, l'historien que je vais interroger. Comment est-ce que vous réagissez à ces propos-là?
Je veux dire que...
À ceux de Lévi-Strauss qui termine la conversation en disant, au fond, la meilleure façon de se débarrasser du racisme, c'est de métisser toutes les races entre elles.
Oui, alors, d'abord, la première réaction, c'est un peu, c'est une grande perplexité devant ce débat, effectivement, d'ethnologues, parce que je crois que 50 ans après, plus personne aujourd'hui ne poserait le débat en ces termes. Et je dirais qu'il tombe presque dans un des pièges que dénonce justement Benjamin Isaac et qui fait la force de son livre, en disant dans le fond, le premier des racismes, c'est de considérer tout peuple comme un groupe solidaire en quelque sorte et de prêter à tout le monde les mêmes sentiments. Or c'est exactement ce que font ces trois ethnologues en pensant que tous les Grecs considèrent par exemple les esclaves de la même manière, ce qui est absolument faux. D'une part, il y avait des gens qui pensaient de manière très différente et on a là-dessus de nombreux témoignages. Alors, c'est difficile de réagir en fait sur ce qui est un faux débat probablement. Ce qui est très frappant dans ce qui est dit à la fin, c'est que pour supprimer le racisme, dans le fond, le mieux, ça serait de mélanger les races. Dans le fond, les anciens n'ont pas tellement d'idées de race. Le mot race n'existe pas, ne vient pas.
Voilà.
Il y a bien l'unité du genre humain là-dessus, personne ne se pose tellement de questions. En revanche...
La fameuse formule « nil humanum alienum puto », je considère voilà. Que... rien d'humain ne m'est étranger.
Ne m'est étranger et personne ne dénie l'humanité de qui que ce soit, y compris des esclaves, contrairement à ce qui est dit par nos savants prédécesseurs. Les anciens savaient très bien que les esclaves étaient des hommes. Là-dessus, on a de très nombreux textes. Mais, en revanche, ils caractérisent des peuples. Des peuples différents les uns des autres et ils ont tendance à établir avec le temps une hiérarchie des peuples. Et c'est là où peut-être le livre de Isaac est extrêmement intéressant, c'est qu'il montre en effet, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, que sur ces peuples, ils ne courent pas simplement un certain nombre, j'allais dire, de stéréotypes sans danger. Les Gaulois sont grands, blonds et moustachus.
On y viendra, c'est quand même intéressant.
Oui, mais ces stéréotypes sont intéressants parce qu'ils masquent à leur façon une forme de racisme aussi. Donc c'est pas simplement des stéréotypes sans conséquence. Il y a progressivement avec le temps, et on va peut-être revenir un peu sur certains détails, une argumentation de type scientifique qui vise à classer les peuples en fonction de leur milieu géographique, de leur localisation, du type de climat sous lequel ils vivent, et qui en tirent des conséquences sur leur qualité physique, morale, politique. Et là, dans la mesure où on attribue à un peuple tout entier un ensemble de qualités ou de défauts, il va de soi que pour certains peuples c'est surtout des défauts, on tombe bien dans un type de pensée raciste. Alors, Benjamin Isaac, qui est un homme prudent, préfère le mot proto-racisme parce qu'il voit bien où est le danger, qui serait de faire une sorte de mélange entre le racisme tel qu'on l'a défini avec les théories du XIXe siècle, tel qu'on l'étudie aujourd'hui, peut-être faut-il remonter même au XVIIIe siècle, je ne sais pas, je ne vais pas me lancer dans ce débat auquel je ne connais pas grand-chose, et donc il préfère parler d'un proto-racisme. Mais ne nous y trompons pas, son proto-racisme, c'est bien déjà du racisme.
Beaucoup de points communs, tout en insistant bien sûr sur les différences, c'est exactement le type d'équilibre que nous nous efforçons de préserver dans cette émission depuis qu'elle existe. Alors, bien avant Montesquieu, en somme, il y a une sorte de théorie des climats, en particulier une théorie environnementaliste,
oui.
L'idée que le climat pèse sur les comportements, en effet, globalement. Et il y a un très curieux traité qui est attribué à Hippocrate, et que ce livre met en lumière, qui s'appelle « Des airs, des eaux, des lieux », qui remonte à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui pour la première fois établit cette théorie de manière claire.
Oui, alors ce traité attribué à Hippocrate, mais qui n'est sûrement pas d'Hippocrate, a, semble-t-il, eu une importance fondamentale, parce qu'il établit effectivement de façon tout à fait nette et claire que le caractère des peuples est déterminé en quelque sorte par le climat et l'endroit où vivent les gens.
Et l'auteur du traité annonce dès le début, à présent je souhaite montrer comment l'Asie et l'Europe diffèrent l'une de l'autre dans chaque aspect et particulièrement dans l'apparence physique de leur peuple.
Voilà. Alors par exemple, il va développer une idée, alors une parmi d'autres, parce qu'on ne va pas reprendre absolument tout le traité, mais par exemple une idée qu'il développe, c'est que tous les Asiatiques se ressemblent. Alors qu'au contraire, les Européens sont tous différents les uns des autres.
C'est arrivé, qu'on dit la même chose au 19e siècle, tous les Japonais se ressemblent.
Exactement. Oui. J'allais dire, c'est encore un propos de café du commerce d'aujourd'hui. Tous les Asiatiques sont semblables, tous les Africains sont semblables, etc. Et ça remonte en fait à ce traité-là. Et il va expliquer soigneusement pourquoi les Asiatiques sont, d'une certaine manière, inférieurs aux Européens. Dit-il, ils vivent dans un pays où le climat est favorable. Donc, tous les biens, ils poussent en abondance. Donc, les gens n'ont pas à se fatiguer, en quelque sorte, pour survivre.
Les gens sont bien nourris d'un physique très agréable et très grand.
Voilà.
Ils diffèrent à peine l'un de l'autre dans leur silhouette ou leur taille.
Voilà, exactement. Et donc, comme ils n'ont pas beaucoup d'efforts à faire, cela ne développe pas leur capacité mentale, intellectuelle et donc spirituelle. Et donc, ils sont faibles. Physiquement, même s'ils sont beaux à regarder, on leur reconnaît un certain nombre de vertus malgré tout, mais ça donne des peuples peu guerriers, peu courageux.
Sans compter l'influence de la monarchie.
Sans compter alors le fait que, en plus, du coup, comme ils sont peu réactifs, si vous voulez, ils ont peu l'esprit d'initiative, ils se laissent facilement dominer, et ils sont donc faits pour la monarchie, et alors on rentre dans une sorte de cercle vicieux. La monarchie rend les hommes esclaves, et donc, en réalité, les Asiatiques finissent par tourner en rond, et ils sont faits pour être esclaves.
Alors que les Grecs sont libres, et par conséquent, des combattants motivés. Et
voilà, les Grecs sont libres, des combattants motivés, et ils sont libres parce qu'ils vivent dans un climat peut-être plus difficile. Alors, par exemple, une chose que dit l'auteur du traité, c'est que la température est un peu toujours la même en Asie. Alors que les différences de température qui existent en Europe obligent les gens à se défendre, en quelque sorte. On est obligé de s'habiller, de construire des maisons, de se chauffer. La terre est plus ingrate. Il faut se battre, en quelque sorte, pour faire pousser de quoi manger. Et donc, ça développe, en quelque sorte, le caractère des gens. C'est une vue, évidemment, très étrange. Mais ce qui peut être étonnant, mais peut-être qu'il faut expliquer aux auditeurs tout de suite, c'est que les anciens n'ont jamais essayé de confronter les réalités qu'ils pouvaient observer, parce qu'ils connaissaient l'Asie. Ce qu'ils appellent l'Asie, c'est pas l'Extrême-Orient. Ce que nous appellerions aujourd'hui l'Asie, souvent c'est l'Asie lointaine.
Bien
sûr, c'est la Syrie, c'est la Mésopotamie, l'Iran, jusqu'à l'Inde. Au-delà, c'est des terres inconnues, pour autant même qu'il y ait des terres, pense-t-il. Donc, il n'y a pas de tendance à confronter la réalité de ce qu'ils observent avec ce qui est écrit. Et d'une certaine manière, ce qui est écrit a plus de force que la réalité observée.
Ce qui est étonnant aussi, c'est que cette théorie, finalement, qui a connu un succès inouï dans l'Antiquité, on le retrouve chez Galien, qui est l'autre grand,
alors,
avec Hippocrate,
absolument,
l'autre grand
médecin du deuxième siècle après Jésus-Christ.
Grande figure.
Et dans l'intervalle, je crois qu'il y a un personnage qui a joué un rôle extraordinaire dans la diffusion de cette théorie environnementaliste, c'est Aristote. Aristote, dont la pensée a en quelque sorte formalisé, rigidifié les propos du traité hippocratique et qui l'a popularisé. On retrouve ensuite cela dans toute la littérature antique, avec des exceptions sur lesquelles on aura peut-être l'occasion. Il y a des gens qui n'y ont pas cru, comme par exemple Strabon.
Vous êtes très très sévère à l'égard d'Aristote. Vous dites qu'au fond, pendant des siècles,
oui.
Sur cet égard, il disait dans Politique, je le cite, « Disons maintenant quel doit être le caractère naturel des citoyens, Aristote. Voici à peu près la représentation que l'on peut s'en faire en considérant à la fois les cités renommées des Hellènes et toute la terre habitée telle qu'elle est répartie entre les peuples. Les peuples des régions froides et ceux de l'Europe sont pleins de courage, mais manquent plutôt d'intelligence et d'habileté. Aussi se maintiennent-ils dans une relative liberté, mais ils manquent d'organisation politique et sont incapables de commander à leurs voisins. Les peuples de l'Asie, au contraire, sont dotés d'une nature intelligente et de capacités techniques, mais ils manquent de courage, aussi demeurent-ils dans une soumission et un esclavage perpétuel. » Et ceci qui termine la citation d'Aristote que je vous propose. « Quant à la race des Hellènes, comme elle a géographiquement une position intermédiaire, ainsi participe-t-elle de ces deux types. Elle est en effet courageuse et douée d'intelligence, c'est pourquoi elle demeure libre, jouit de la meilleure organisation politique et est capable de commander à tous les peuples si elle parvient à une unité de constitution. Heureux équilibre, les Grecs sont au milieu.
Voilà, c'est exactement l'idée que développe Aristote. Donc il va plus loin, lui, que la simple comparaison qu'établissait l'auteur du traité hippocratique entre Europe et Asie, et il va en quelque sorte montrer comment les Grecs sont au milieu de tout ça. Et cette théorie environnementaliste va avoir un succès extraordinaire dans toute l'Antiquité, mais bien sûr avec des modifications. Ça ne va peut-être pas vous surprendre si, à l'époque de l'Empire romain, le centre de gravité, ce point d'idéal entre les peuples courageux du nord et industrieux du sud, ben, se trouve un petit peu plus à l'ouest, du côté de l'Italie, par exemple.
On est toujours au centre, quoi, l'empire ben, du
évidemment.
Milieu.
On est toujours au centre, évidemment, à l'endroit idéal où se retrouvent toutes les vertus. Et dès qu'on s'éloigne de ce centre idéal, alors tout se dégrade, selon des modalités diverses, évidemment.
On peut observer que cette théorie a un succès non seulement remarquable dans l'Antiquité, mais que ce succès s'est prolongé dans l'époque moderne. On le retrouve chez Jean Bodin, chez Montesquieu, chez Hume, chez Herder et chez Buffon, parce que pour Buffon, c'est absolument central. Hiérarchie de l'humanité, critère de sociabilité en même temps, qui est cher à la littérature ancienne, l'essence des peuples civilisés et leur adaptation sociale. Alors que les barbares, c'est Buffon qui le dit, les barbares qui n'ont pas de loi fixe ou de gouvernement régulier ne peuvent être considérés que comme une sorte de salmigondi, hein, une sorte d'assemblage tumultueux d'individus barbares et indépendants qui n'obéissent à aucune loi, c'est ça.
C'est hérité directement d'Aristote, et Aristote établit à partir de là une sorte de hiérarchie des peuples, et c'est comme ça qu'il en arrive à justifier l'esclavage pour les peuples barbares. Ils sont faits pour être esclaves. Et on retrouve les propos de nos ethnologues de tout à l'heure.
Alors j'en viens maintenant aux Athéniens, qui sont au centre du centre, d'une certaine façon, en tout cas tels qu'ils se voient eux-mêmes. Et je vais vous proposer un extrait des Grenouilles d'Aristophane, une pièce de 405 avant Jésus-Christ. Écoutez ce que dit le coryphée.
D'ici, nous avons en effet souvent remarqué que dans cette ville fameuse, on en use toujours à l'égard des honnêtes gens comme à l'égard de l'ancienne monnaie. Celle-ci, sans alliage, d'un excellent titre, est la meilleure de toutes, la seule bien frappée, qui sonne bien, la seule qui est court chez les Grecs et chez les barbares. Mais au lieu de vous en servir, vous préférez ces méchantes pièces de cuivre nouvellement frappés et de mauvais aloi. De même, les citoyens que vous savez bien nés, modestes, justes, honnêtes, habiles aux exercices de la palestre, à la musique, à la danse, vous les dédaignez, tandis que vous trouvez aptes à tous les emplois des infâmes, des étrangers, des voyous de passage, dont autrefois Athènes n'aurait pas voulu, même comme victime expiatoire. Insensé, changez-t-on de méthode et remettez-vous-en à des gens propres du souci de gouverner l'État. Si cela vous réussit, on vous en louera. Si la fortune vous trahit, les sages estimeront que vous avez au moins gardé l'honneur.
C'était Maurice Sartre, une interprétation à la radio des Grenouilles d'Aristophane, une adaptation de Bernard Zimmer, et on a entendu Jacques Danneville qui interprétait le coryphée. On est donc à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Aristophane imagine un dialogue aux enfers entre Euripide et Échille, et c'est l'occasion de développer cette idée où on voit vraiment la xénophobie, on voit les infâmes qui sont les étrangers, et puis cette idée extraordinaire qui est déjà à la loi de Gresham, c'est-à-dire que la mauvaise monnaie chasse la bonne.
Oui, alors ce texte est extrêmement intéressant parce qu'il nous permet de prolonger et de développer en quelque sorte les propos de tout à l'heure. En effet, la théorie environnementaliste qui fonde en quelque sorte le proto-racisme des anciens, s'accompagne d'autres aspects, et notamment l'idée de la pureté de la race. Et c'est une idée qui a été en particulier développée à Athènes, d'une façon exacerbée, beaucoup plus que chez tous les autres peuples. Tous les autres Grecs admettent descendre de tel ou tel peuple. Alors il y a des héros mythiques, mais les Athéniens, eux, avaient réussi le tour de force à ériger en légende nationale. Je ne dis pas qu'ils y croyaient nécessairement, mais en tout cas c'est la légende nationale. Ils sont, eux, sortis du sol même de l'Attique.
Alors on est exactement, ça annonce déjà toutes les théories du racisme dit scientifique du 19e et du 20e siècle.
Absolument.
Presque Hitler.
Et l'idée de base...
Si je parle d'Hitler pour les Athéniens,
non? Non, je ne ferai pas le rapprochement pour des tas d'autres raisons, mais je crois que l'idée de la pureté de la race, on a parfaitement le droit de faire en tout cas ce rapprochement. Car les anciens, d'une manière générale, développent cette idée, et Aristote alors là encore a joué un rôle important, mais il n'est pas le seul, loin de là, que de toute façon, les peuples sont d'autant plus supérieurs aux autres qu'ils ne sont pas mélangés. Et ça, c'est un propos qu'on retrouve absolument partout. Et les Athéniens, eux, avaient réussi à légiférer là-dessus, puisque à partir de la loi de Périclès de 451, pour être Athénien, il fallait être né de père et de mère Athénien, donc avoir une sorte de double enracinement.
Déjà.
Déjà. Et ce que dit le coryphée là, il ne vise pas tellement les étrangers qui seraient de vrais étrangers, c'est-à-dire des non-Athéniens. Ce qu'il veut dire, c'est que, à la faveur de la guerre du Péloponnèse en particulier, puisque là on est à la fin de la guerre du Péloponnèse, où Athènes connaît les pires malheurs, eh bien on a cessé d'appliquer la loi de Périclès depuis 430, tout simplement pour combler les vides de citoyens, parce que il y a eu énormément de morts.
L'immigration pour répondre à un déficit démographique, on connaît ça aussi.
Exactement, et que, en fait, beaucoup d'Athéniens de ce moment-là sont en fait des gens naturalisés en quelque sorte, ou qui ne sont qu'à moitié Athéniens. Et donc, il y a une sorte de dévalorisation de la race, du peuple, parce qu'il y a des mélanges. Et ça, c'est une théorie alors qui court dans toute l'Antiquité. L'exemple le plus caractéristique, c'est celui des Galates.
Oui.
C'est-à-dire ces Celtes qui sont installés dans ce qui est aujourd'hui le centre de la Turquie. Les Galates, on peut dire, ont aux yeux des anciens à peu près tous les défauts possibles, parce qu'ils ont combiné tous les malheurs. D'abord, ils ont changé d'emplacement. Et un peuple qui change d'emplacement, c'est un peuple qui perd en partie des qualités qu'il avait avant, quel que soit le sens des déplacements. Mais alors s'il va du nord vers le sud ou de l'ouest vers l'est, c'est pire.
Il perd sur les deux tableaux.
Il perd sur les deux tableaux. Donc les Galates sont des Celtes qui sont allés de l'ouest, de l'Europe de l'ouest ou de l'Europe centrale, vers l'est. Donc déjà vers l'Orient, ils s'amollissent. En plus, ils se sont mélangés en cours de route, ce qui leur a fait perdre leur rare qualité, qui était notamment des qualités guerrières. Et c'est un phénomène, ça, qu'on le retrouve partout. Par exemple, on a un texte, je crois c'est de Pline, ou de Tite-Live plutôt, qui dit, dans le fond, après l'époque d'Alexandre, des Grecs ont émigré, ils sont allés s'installer en Syrie, en Mésopotamie, en Perse, en Égypte. Mais dans le fond, est-ce qu'ils sont encore Grecs? Ils sont devenus de Grecs ou de Macédoniens qu'ils étaient, c'est-à-dire le peuple situé au cœur même de l'humanité, avec toutes les vertus qu'on leur connaît. Ils sont devenus, à leur tour, des Syriens, des Égyptiens, des Parthes. C'est-à-dire qu'ils ont déchu.
Ce qui est d'ailleurs en sens inverse, Tacite fait une description plutôt positive des Germains en disant qu'ils sont indigènes et qu'ils ne se sont pas mélangés du tout avec d'autres peuples par le fait de l'immigration et des rapports sexuels.
Voilà, et c'est exactement
le contre-exemple.
Le contre-exemple qui confirme absolument la théorie. Tacite loue les Germains. Alors, ils ont d'autres défauts, les Germains, mais ils ont cette qualité, c'est qu'ils ne sont sans mélange et ils n'ont jamais bougé de chez eux. Et donc, au moins, restent les vertus qu'on reconnaît à leur peuple. Et ça, c'est une idée alors qui court absolument partout dans l'Antiquité.
Et déjà dans Platon, ça ne nous étonnera pas, il n'y a pas qu'Aristote, il y a aussi Platon.
Bien sûr, Platon dit à peu près la même chose.
Il dit dans le Ménexène, la voilà bien, la solidité, la pureté des sentiments généreux et libres de notre patrie, voilà bien sa haine instinctive du barbare, due à ce que nous sommes des Grecs de bonne alloi. La loi, ça s'applique aussi à la monnaie, à l'alliage, à la loi, sans mélange de sang barbare.
Voilà.
Notre existence, en effet, n'a rien de commun avec les Pélops, non plus qu'avec les Cadmos, pas davantage avec les Égyptos, les Danaos, ni avec d'autres barbares de nature, etc.
Voilà, parce que ces héros qu'il cite sont en fait des héros fondateurs d'un certain nombre de peuples grecs, mais qui étaient réputés étrangers. Cadmos était phénicien, D'autres étaient Égyptos, son nom est transparent. Donc il y a là une idée extrêmement intéressante aussi. Et curieusement, les déplacements de peuples, on pourrait penser qu'un peuple qui va se déplacer, venir vers le centre, c'est-à-dire vers la Grèce, devrait trouver peu à peu les qualités des Grecs, mais pas du tout. Tous les déplacements jouent toujours à contresens, c'est-à-dire qu'ils jouent contre le peuple qui se déplace. Tout déplacement est une dégradation. Toute émigration, en quelque sorte, supprime les qualités que l'on pourrait avoir au départ.
Alors que l'Antiquité a connu au moins autant de mouvements de population que l'époque
contemporaine. Bien sûr, il ne faut pas penser que le discours qui est tenu, le discours raciste que tiennent les anciens, correspond nécessairement à une réalité vécue.
On va y venir.
Ça, c'est autre chose.
On va y venir, effectivement. Mais auparavant, je voudrais que nous disions un mot du rôle qu'a pu avoir le racisme pour justifier l'esclavage et pour justifier l'impérialisme, puisqu'on affirme une différence, une supériorité de ce qu'on peut être. Ça peut également expliquer ou fonder. Mais pour ouvrir cette partie de notre conversation, je vais vous faire entendre un extrait d'un péplum. Hein. On est obligé de faire fond sur ce genre de film, souvent faute d'enregistrement datant de l'Antiquité. Je vais vous faire entendre un extrait d'un film fameux de Stanley Kubrick, Spartacus, 1960. Kirk Douglas, je vous laisse l'imaginer, joue le rôle de Spartacus. Et c'est Peter Ustinov qui joue le rôle du marchand d'esclaves. On est au début du film. On les entend pas légèrement avec leur voix puisque c'est doublé, mais écoutez.
Celui-ci n'est pas mal. C'est un Gaulois.
Oh, l'horreur des Gaulois. Trop de poils. A-t-il la force de descendre ici tout seul?
Approche-toi. Descends. Descends.
Veux-tu avoir l'obligeance de me montrer sa dentition?
Ouvre la bouche.
Merci. Oui. Fais-moi voir tes dents, je te dirai qui tu es. Et cette mâchoire est absolument impossible. Un misérable effet de craie.
Nous en avons d'autres. Beaucoup d'autres.
Et celui-là?
Oh, c'est un de nos traces. J'ai voulu faire un exemple avec lui.
Comment?
En le faisant fouetter à mort.
Hein?
C'est la seule façon de s'imposer aux esclaves.
Oh, quel dommage. Il réagit encore, il a une bonne carcasse. Pourrais-je voir ses dents?
Ouvre la bouche!
Il embaume le rhinocéros. Comment tu viens de lui ordonner d'ouvrir la bouche et il ne t'obéit pas?
Ses dents sont aussi bonnes que celles d'un fauve. Il a coupé le jarret d'un de mes gardes dans le mordant.
En vérité, c'est merveilleux, j'aurais voulu voir cela.
Je le prends.
Jetons un regard sur les autres.
Je ne sais pas si vous aimez les péplums, Maurice Sartre.
Oui, j'aime les péplums. Quand ils sont bien faits, celui-ci est pas mal fait.
Alors,
d'abord, on peut pas évidemment utiliser le dialogue d'un film récent comme un document de l'Antiquité.
Donc, au deuxième degré.
Voilà, au deuxième degré. Il y a une idée qui est intéressante, c'est le fait qu'il a de bonnes dents, il a mordu jusqu'au sang. Ben, forcément, un barbare est un peu cannibale. Donc, ça va ensemble. Ce qui est intéressant, c'est en ce qui concerne l'esclavage, et on revient encore à Aristote, parce qu'il a eu dans cette affaire un rôle vraiment déterminant, c'est que Aristote, en établissant une hiérarchie des peuples, et en estimant effectivement qu'il y avait des peuples supérieurs, les Grecs, et d'autres qui n'étaient pas, qui étaient en dessous, a en quelque sorte donné une justification théorique de l'esclavage. Il ne faut pas croire que les Grecs se sont jamais posés de questions sur l'esclavage. Ils ne l'ont jamais remis en question, ça c'est vrai. Et jusqu'à la fin de l'Antiquité, et bien au-delà, jusqu'au Moyen-Âge, l'esclavage n'est pas remis réellement en question, y compris par les auteurs chrétiens. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne se sont pas posés des questions. Et on a beaucoup de textes qui, notamment d'auteurs stoïciens, et là les chrétiens ne jouent pas un rôle particulier dans cette affaire, qui ont montré comment il ne fallait jamais oublier que l'esclave était un homme comme son maître, que dans le fond c'était les hasards de l'histoire qui avait probablement fait que l'un était esclave et l'autre libre.
Donc pas de racisme, en l'occurrence.
Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de racisme. Mais en même temps, j'allais dire que c'est difficile de vivre avec cette idée que ces hommes, tous ces hommes sont des hommes, et que malgré tout, il y en a un qui a droit de vie et de mort sur l'autre. Et donc il y a une justification théorique qui a été fournie d'une certaine façon par Aristote, par cette idée de la hiérarchie des races. Il y a des races faites pour obéir, d'autres qui sont faites pour commander.
Là, on retrouve, en revanche, un vrai proto-racisme ou un racisme tout court.
Là, il y a un vrai proto-racisme, ou en tout cas, une justification raciste ou raciale, je ne sais pas comment on peut dire, de l'esclavage, et qui peut trouver évidemment des applications aussi dans l'impérialisme. On a cité au tout début de cette émission ce texte où il est dit que les peuples du Nord, certes, sont courageux et de bons guerriers, mais ils ne savent pas commander. Ils arrivent à peine à se commander eux-mêmes. C'est l'idée des Gaulois anarchiques, des Germains qui vivent dans l'anarchie la plus totale. Et puis, il y a ceux qui sont faits pour obéir les Asiatiques, et au milieu, il y a ceux qui savent, enfin, s'ils arrivent à s'entendre, parce que là-dessus, il y avait une petite pointe d'Aristote disant, si les Grecs savaient s'entendre, peut-être qu'ils pourraient commander à l'univers entier.
Alors, nous avons déjà évoqué un certain nombre de stéréotypes, on peut aussi y rester un instant dans ce champ, cet immense magasin de réflexion, non pas pour approuver les stéréotypes, mais pour se dire qu'ils sont de tous les temps. Et par conséquent, il faut savoir comment s'en accommoder, comment éventuellement les modifier d'autres exemples. Des Homères, d'ailleurs, les Phéniciens sont présentés comme des marchands, certes intelligents, mais tout à fait tricheurs.
Tricheurs et pirates.
Et c'est reporté ensuite sur les Carthaginois lorsqu'il faut détruire Carthage aux yeux des Romains, c'est ça?
Bien sûr. Et là aussi, on peut s'appuyer sur le témoignage d'Homère.
Avec l'idée de cruauté, les Carthaginois sont extrêmement cruels, sacrifice humain, toujours cette idée de consommation de chair crue. Le steak tartare d'aujourd'hui apparaîtrait comme une preuve de non-civilisation.
De non-civilisation, oui. Manger cru, c'est non-civilisé. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que, et ce que montre bien le livre de Ben Isaac, c'est que, en réalité, tous ces stéréotypes sont parfois contradictoires. C'est-à-dire que le même peuple, je pense par exemple aux Parthes, peut être jugé indifféremment amolli par les délices de l'Orient, pour autant que ça ait un sens, donc efféminé, vivant dans un luxe effréné.
Homosexualité, autocastration,
voilà, tout ce qu'on voudra, enfin une vie de plaisir sans fin.
Stupre, on préfère aller au bain plutôt que de s'entraîner, on mange trop, etc.
Voilà, on mange trop. Et en même temps, comme des guerriers absolument sauvages, c'est-à-dire le jour où ils ont battu les Romains là, dans une bataille catastrophique en 55 avant Jésus-Christ, évidemment, en 53, pardon.
Nos auditeurs ont rectifié d'eux-mêmes.
Bien sûr. On va considérer que ces Parthes qu'on jugeait jusque-là efféminés sont en réalité des guerriers d'une cruauté inimaginable.
On retrouve la flèche du Parthe, c'est-à-dire...
Voilà. C'est-à-dire... c'est la lâcheté. Alors, la flèche du Parthe, c'est l'image à la fois de la lâcheté, de l'habileté et du guerrier quand même vainqueur aussi, d'une certaine manière.
En fait, semblant de s'en aller.
Voilà. Alors. Et puis, en même temps, on tire dans le dos.
Alors, les Gaulois, ça nous intéresse. Vous avez dit que c'était des gens très... Alors, les Gaulois... à se disputer entre eux. Mais en même temps, ce sont de bons juristes. Et puis... Ils ont de bonnes écoles de rhétorique.
Alors les Gaulois sont sûrement pas les pires des victimes pour les auteurs de l'Antiquité. Alors bien sûr, il y a des stéréotypes, je dirais presque inoffensifs. Ils sont grands, ils sont blonds. On parle pas de la moustache, hein. Je le signale, dans l'Antiquité, on parle pas de la moustache des Gaulois. Ça, c'est une idée du 19e siècle.
Elle apparaît en gros sous le Second Empire.
Voilà, par exemple. Mais, peut-être qu'effectivement, il y avait des Gaulois étaient en moyenne un peu plus grands peut-être que les hommes de Méditerranée. Est-ce qu'ils étaient souvent un peu plus blonds, c'est possible. Ça ne va pas chercher très loin. Mais alors, ce qu'on reproche aux Gaulois, c'est que leur proximité avec la civilisation les a amollis. Et dans une comparaison avec les Germains, ils sont à tous les coups perdants. Les Germains étant plus loin, eux n'ayant pas bougé, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'endroit où ils vivaient, ne s'étant pas mélangés, alors que les Gaulois se sont mélangés avec d'autres populations, ou bien même tout simplement avec des Romains. Et donc, tout ça a joué en leur défaveur.
Les Égyptiens aussi, alors on trouve... Beaucoup de stéréotypes négatifs pour eux.
Oui, alors les Égyptiens sont probablement, avec les Juifs et les Syriens, les peuples qui ont été les plus mal vus dans l'Antiquité, sur lesquels courent les propos racistes les plus infâmes. Les Égyptiens, on les accuse absolument de tout. D'inceste, ça va de soi, puisqu'ils se marient entre frères et sœurs, ce qui est une réalité, mais une réalité relativement limitée.
Statistiquement, c'était...
Oui, c'est relativement limité. D'autre part, on les accuse d'adorer des animaux, enfin des dieux à tête d'animaux. Alors, l'aspect zoomorphe de la religion égyptienne paraît absolument incompréhensible aux Grecs comme aux Romains.
Dégoûtant.
C'est dégoûtant, en plus. On les accuse également d'être des cannibales. Il y a beaucoup d'histoires qui racontent des scènes de cannibalisme. Bref, c'est vraiment...
Ils sont avides aussi, ils sont arrogants.
Ils sont avides, ils sont arrogants.
Et puis alors,
ils sont... D'abord, ils sont noiraux. Alors ça, c'est la première chose. Ça, c'est un autre aspect, ce qu'on n'a pas évoqué du tout. Il s'est développé dans l'Antiquité... ce qu'on appelle la physiognomie, c'est-à-dire qu'on va tirer de l'aspect physique des gens les qualités morales. Or, quelqu'un qui est noir ne peut pas être moralement d'une morale élevée. On peut dire ça comme ça.
On a déjà donc cette...
C'est ce qui est exprimé notamment en particulier dans les caractères de Théophraste, par exemple. Et donc, on va tirer des conséquences. Et c'est là où, alors, on peut bien parler d'un racisme organisé, c'est qu'on va décider que tous les Égyptiens sont noiraux. Hein? Et c'est tellement ancré dans l'inconscient que quelqu'un comme Saint Paul, par exemple, qui se trouvait noireau, dit « je suis noireau comme un Égyptien ».
Lui-même.
Lui-même le dit. Et il le dit pour se dévaloriser. Bon, c'est une forme d'humilité chez lui, bien entendu.
C'est d'ailleurs, on peut le dire entre parenthèses, conduit certains au XXe siècle, comme par exemple Saint-Gore, expliquait que l'influence des Noirs sur l'Antiquité avait été beaucoup plus grande qu'on ne le disait, et que c'était après une façon de retourner à leur avantage un certain nombre d'analyses dépréciatives.
Bien sûr, mais ça c'est un autre débat qu'on pourrait avoir une autre fois.
Frobenius.
C'est avec notamment tout le livre Black Athena de Martin Bernal, mais ça c'est autre chose.
Ne nous égarons pas. Alors un mot quand même des Juifs.
Les Juifs sont parmi ceux qui ont été les plus mal vus. Et là, je ne sais pas quel mot employer. Moi, j'ai plutôt tendance à éviter le terme d'antisémitisme parce que je pense qu'il a des résonances très précises dans le monde contemporain pour parler d'anti-judaïsme. Tout simplement, d'abord. Je le dis tout de suite, ça fait objet de débats et parfois de débats même virulents chez les historiens. À mon avis, la chose n'est pas si importante que ça. Pourquoi je parle plutôt d'antijudaïsme ? Parce que on en veut aux Juifs, pas tellement pour des raisons religieuses, que pour des raisons à la fois politiques et religieuses. C'est-à-dire que les Romains ne voient pas que les deux choses sont plus liées qu'ils n'imaginent. D'abord parce que les Romains, comme les Grecs, ne parlent pas des Juifs, mais parlent des Judéens. Donc pour eux, c'est un peuple comme un autre, ancré dans un pays. Et ce qui est curieux, c'est que les Juifs alors font les frais, j'allais dire, de deux choses différentes. D'abord, d'un brûlot qui a été écrit au IIIe siècle avant Jésus-Christ par un auteur égyptien qui s'appelle Manéthon et qui a eu une influence considérable dans le monde antique.
Qu'est-ce qu'il montre,
dans le fond, les malheurs de l'Égypte sont dus en partie aux Juifs, il remonte jusqu'à Moïse, et il explique l'origine des Juifs comme celle d'un peuple de lépreux chassé d'Égypte par les pharaons qui ont voulu purifier l'Égypte. Donc, il colle aux Juifs cette image d'un peuple lépreux. Et puis, bien sûr, il y a eu des réponses juives et bien argumentées là-dessus, mais ça serait là aussi l'objet d'un autre débat. Et puis, ce dont souffrent énormément les Juifs, c'est d'une totale incompréhension de la part des peuples qui les entourent, soit les Grecs, les Romains, mais c'est vrai aussi, évidemment, des Égyptiens, des Syriens. Personne ne peut comprendre à la fois leur monothéisme et le fait qu'ils vénèrent un dieu inconsistant. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas... Donc, courent sur eux les pires histoires. Et une chose qui est très frappante, et moi qui m'intrigue, et je n'ai pas de réponse, et je crois que personne n'a de réponse, c'est que des auteurs comme Tacite, comme Cicéron, comme Plutarque, qui avaient tous les moyens de connaître le Dieu des Juifs en interrogeant des Juifs. Des Juifs, il y en a partout dans l'Empire romain, c'est très facile d'en interroger.
Ils ne le font pas.
Ils ne le font pas, et ils continuent à véhiculer les idées tiré de Manéthon ou d'autres auteurs. Et, par exemple, alors court cette légende que les Juifs engraissent un Grec dans le temple de Jérusalem pour le manger au bout de l'an, par exemple.
Ça annonce déjà beaucoup des fantasmes du 19e
et 20e siècle. Bien entendu. Et voilà une idée qui court et qu'aucun auteur ne va vraiment remettre en cause en disant non, on a vérifié, il n'y a pas de Grec enfermé dans le temple de Jérusalem. Donc, les Juifs, alors, ils souffrent aussi beaucoup de l'agitation qu'ils entretiennent pour des raisons religieuses, sans que les Romains, évidemment, aient toujours vu, ou les Grecs, que le religieux et le politique étaient là étroitement mêlés.
Ils sont indociles.
Ils sont indociles et ce qu'on leur reproche surtout, c'est le refus de se mélanger aux autres. en plus.
Et le refus... est paradoxal chez des gens qui affirment que le mélange peut être pervers.
Mais c'est pas, on ne leur reproche pas de ne pas vouloir se mélanger physiquement, si j'ose dire, de pratiquer l'intermariage, mais même de refuser de manger avec les autres. Il leur manque cette capacité d'avoir une vie sociale et de reconnaître, à la limite qu'ils soient monothéistes, ça gêne personne, mais qu'ils refusent de reconnaître que les dieux des autres sont aussi des dieux, ça c'est insupportable.
Alors, Maurice Sartre, je voudrais que nous ne laissions pas nos auditeurs sur l'impression que l'Antiquité serait une vaste machine à affirmer le racisme, à le développer, parce que c'est aussi, en réalité, une machine à intégrer. Il y a une sorte de discorde entre un certain nombre de propos, plutôt chez les philosophes que chez les géographes ou chez les historiens de l'époque, et d'autre part, l'hellénisation d'une quantité de peuples à l'époque de la domination grecque, et surtout Rome qui a été une formidable machine à intégrer.
Oui, alors je crois que le livre de Ben Isaac est absolument formidable, je crois que on en aura convaincu les lecteurs, mais évidemment il laisse dans l'ombre, parce que c'est pas son propos, tout ce qui est autre que la théorisation du racisme, c'est-à-dire cette capacité des sociétés anciennes à intégrer. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des auteurs anciens qui n'ont pas adhéré du tout aux théories environnementalistes, pureté des races, etc. Je pense à des gens comme Strabon. Déjà Hérodote.
Le géographe Strabon.
Le géographe.
Hérodote, l'historien.
L'Hérodote, l'historien
du 5e siècle. L'histoire et la géographie.
Et Strabon, qui n'adhère absolument pas à ces théories-là. Bien.
C'est comme si on exagérait l'importance des théoriciens du racisme à la fin du 19e siècle, en surévaluant leur audience, leur influence, leur portée.
Il ne faut sûrement pas les minimiser, parce qu'il y a quand même un effort de rationalisation qui est important et qui a son influence, mais ils ne sont pas les seuls à avoir voix au chapitre. Deuxièmement, il y a aussi de la part des Grecs une formidable capacité à intégrer. L'aventure couvre la conquête d'Alexandre, c'est quand même aussi une grande aventure culturelle. Pendant 1000 ans, des pays comme l'Égypte ou la Syrie parlent grec, et des foules de notables d'origine syrienne, d'origine égyptienne, d'origine tout ce qu'on voudra, de tous les peuples, et y compris les Juifs dont on parlait à l'instant, vont s'intégrer. Quelqu'un comme Philon d'Alexandrie est un monument de la littérature grecque, tout simplement. Donc il ne faut pas oublier cette capacité à s'intégrer. Et déjà un homme comme Isocrate, peu de temps après le traité hippocratique dont on parlait,
Isocrate,
disait,
le grand
orateur du 4e siècle, disait vers 480, « Nous ne considérons pas comme grec quelqu'un qui est né grec, mais quelqu'un qui partage la même éducation que nous, la même culture que nous. »
C'est déjà l'opposition entre la loi du sol et la loi du sang.
Et la loi du sang. Et donc il y a bien cette capacité de l'hellénisme à intégrer ce qu'ils veulent. Et puis, l'Empire romain lui-même est une formidable machine à intégrer. Parce que dans le fond, dans l'Empire romain, la grande majorité ne sont guère aux yeux des Romains que des barbares. Des Grecs, des Syriens, des Égyptiens, des Gaulois, des Germains, tout ce que vous voudrez, des Espagnols, des Africains. Or, de tout ça, on a fait un empire qui a tenu quand même pas mal, avec des notables qui sont devenus des citoyens romains. Il y a bien un phénomène de romanisation, d'acquisition d'un certain nombre d'habitudes, de comportements, si on peut appeler ça une romanisation, qui s'est répandue dans tout l'Empire.
Alors, Maurice Sartre, pour nourrir ce propos, en définitive, un dernier extrait de Péplum, La chute de l'Empire romain, un film d'Anthony Mann de 1964. C'est un débat au Sénat, on est à l'époque de Commode, c'est-à-dire...
Entre 180 et 192.
Donc c'est pas encore la chute, mais c'est les débuts...
Non, mais c'est le début des grandes invasions barbares.
Alors justement, écoutez.
100 fois nous avons essayé de persuader ceux que nous nommons barbares combien il peut en coûter de faire la guerre contre Rome en brûlant leurs villages, en crucifiant leurs guerriers et en réduisant leur jeunesse à l'esclavage. Les incendies s'éteignent, on enterre les morts, les esclaves meurent. Peu à peu. Mais la haine que nous avons semée derrière nous subsiste. La haine amène les guerres. Les guerres provoquent des impôts. Et combien de malheurs encore? Tout cela est désastreux, ruineux. Et pourtant, la solution est simple. Il nous faut cesser de faire la guerre.
Cesser de faire la guerre? Alors que tes amis ne cessent de nous attaquer, c'est une trahison. Tous ces peuples ont montré assez clairement ce qu'ils désirent. notre destruction et la destruction de la civilisation romaine.
Je le maintiens. La solution est simple. Il faut transformer ces amis que vous me reprochez en citoyens pacifiques. Confions-leur pour les cultiver nos terres abandonnées. Non seulement ils produiront de quoi se nourrir eux-mêmes, mais je vous le certifie, plus tard ils enverront des vivres à Rome.
Au nom de César! Au nom de César! Un jour, César me demanda à quel moment Rome fut-elle plus grande et plus forte. Et je répondis à César, jamais Rome ne fut plus grande ni plus forte que maintenant. Et à quoi devons-nous que l'Empire soit ce qu'il est aujourd'hui? À notre dureté, à notre intransigeance. Égalité, liberté, paix. Qui donc fait usage de ces mots, à part les Grecs, les Juifs et les esclaves? Rappelons-nous que derrière ces barbares, il y en a des milliers d'autres, dont les hordes guettent une défaillance de notre part pour nous anéantir. Si nous acceptons ces barbares parmi nous, nos ennemis se hâteront de proclamer que nous sommes faibles. Alors, ils fondront sur nous de toutes parts. Et ce sera la fin de l'Empire romain.
Maurice, vous pensez qu'à un moment donné, à l'époque, le débat a été posé?
Non, je ne pense pas. Je pense que là, on est plutôt dans un fantasme du XXe siècle et d'un débat peut-être nord-sud. Mais ce qui est vrai, tout de même, c'est qu'effectivement se pose le problème de l'intégration de tous ces barbares, parce que les Romains de souche, si j'ose dire, c'est jamais qu'une toute petite minorité dans ce vaste empire qui va de l'Atlantique à l'Euphrate.
L'étranger comme menace ou l'étranger comme richesse potentielle?
C'est une richesse potentielle, et de fait, si parfois les Romains ont lutté, bien sûr, contre les nouveaux peuples barbares qui étaient au-delà des frontières et qui tentaient de s'établir dans l'Empire. Encore une fois, faut pas oublier que l'Empire a été aussi une formidable machine à intégrer les étrangers, les barbares, jusqu'au point qu'en 212, on prenne comme mesure que tous les habitants de l'Empire sont désormais citoyens romains.
C'est les guides de Caracalla.
C'est une manière, malgré tout, au moins d'établir une égalité juridique entre tous les habitants de l'Empire, quelle que soit leur origine ethnique.
Ce qui montre bien, en somme, vous l'avez d'ailleurs souligné, les limites du racisme théorique par rapport à la pratique politique et collective de l'Empire romain, sans lequel il n'y aurait pas peur d'Empire romain.
Bien sûr, bien entendu. Mais je crois que ça, c'est le propre, probablement, de tous les États. D'un côté, il y a les pratiques politiques, et puis de l'autre, il y a le discours savant, ou le discours, ici, dans ce cas précis, le discours raciste.
Mais il me semble que nous avons bien cerné à la fois la réalité et les limites du racisme dans l'Antiquité, ce qui peut nous proposer d'ailleurs quelques leçons pour aujourd'hui. Je rappelle le titre du livre de Benjamin Isaac, sur lequel nous avons fondé notre échange, Maurice Sartre. Je traduis en français, c'est l'invention du racisme dans l'Antiquité classique. Je le traduis en français parce que c'est un livre qui est paru en anglais aux presses de l'Université de Princeton. Il faut d'ailleurs espérer qu'on puisse faire l'effort de le proposer à un public français français.
Je pense que c'est indispensable.
Alors on y arrivera probablement, et vous y avez contribué en rendant compte dans le numéro de l'histoire, numéro 291 d'octobre 2004. Je rappelle d'autre part votre dernier ouvrage, qui est l'Anatolie hellénistique de Léger au Caucase, qui est paru, nouvelle édition, je crois, chez...
Nouvelle édition, oui, corrigée, qui est paru en novembre.
Chez Armand Collin.
Chez Armand Collin, oui.
Les internautes peuvent écouter cette émission pendant une semaine sur le site de France Culture. Et samedi prochain, nous parlerons de l'identité masculine comme éventuellement ébranlée déjà d'une guerre à l'autre entre 1918 et 1939, et je recevrai pour cela André Rauch. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, avec la collaboration d'Agnès Chauveau et avec Patrick Molinier, notre réalisateur, avec Antoine Lehambre, Meryl Moneghetti et pour les Archivina, Florence Boisset.
Et voici venue l'heure de retrouver Antoine Garapon avec le bien commun.